juste avant de commencer, je me présente, je m'appelle Sarah, je suis guide conférencière pour l'Office de tourisme d'Arras. Donc on est sur un hôtel de ville qui avait été construit au Moyen-Âge à l'origine. Puis après la construction de l'hôtel de ville, on va aussi créer cet hôtel de ville, notamment ce bâtiment central dans lequel on est actuellement, entre 1601 et 1608. Ensuite, on construira les deux ailes latérales un peu plus tard. Donc pour celle qui est juste de ce côté-là, du côté office de tourisme, on est sur une aile qui va être conçue à la fin du XVIe siècle, dans un style assez renaissance d'ailleurs sur l'extérieur. Pour l'aile qui est de l'autre côté, ce sera plutôt au milieu du XIXe siècle.
Les lundis et vendredis de cet été se tient une heure au cœur des places d'Arras, une visite en compagnie d'une guide conférencière qui nous fait découvrir les salles du conseil et des mariages avant de nous livrer les secrets des places et de leurs quelques 155 façades de style baroque flamand. Une visite qui a laissé les touristes satisfaits et conquis. Nous en avons profité pour évoquer avec eux l'importance de bénéficier d'une personne physique, d'un guide en chair et en os pour les accompagner tout au long de la visite.
Moi, je suis de Grenoble et monsieur est de Vimy, juste à côté.
Je connaissais Arras, mais beaucoup moins à fond que ce qu'on vient de voir là, ce qu'on vient de visiter. J'étais super étonné de voir toutes les beautés de l'hôtel de ville subjuguées.
Donc la visite vous a plu, vous avez envie de découvrir d'autres endroits d'Arras ?
Franchement, on serait intéressé parce que vraiment, je connais Vimy avec tout l'entourage, Laurette. Mais des visites comme ça guidées, c'était vraiment super intéressant avec une guide qui nous a passionnés.
Justement, à propos du métier de guide, est-ce que c'est important pour vous d'avoir une personne pour vous expliquer les audio guides, ça peut aussi vous intéresser, ça vous dérange de pas avoir la présence de quelqu'un pour vous faire la visite ou...
Je trouve que c'est mieux d'avoir une personne physique parce qu'on peut lui poser des questions. Un audio guide, c'est bien, mais
c'est plus
on oublie un peu ce que raconte l'audio guide par rapport à un vrai guide.
Ouais, je suis entièrement d'accord. On a fait plusieurs visites avec des audio guides. Une personne physique qui nous répond et qui vit un peu sa région en même temps. C'est super intéressant, super bien.
Et toi, qu'est-ce que t'as pensé d'Arras et de la visite ?
Je trouvais que c'était très bien et plutôt que c'était vraiment joli. On est allé visiter aussi en haut, il y avait avec les orioles, du beffroi. C'était vraiment joli la vue surtout. On voyait qu'on était tout petit et on voyait bien la ville.
On est arrivé ce matin à Arras, donc on a visité le beffroi, les souterrains, les doves. Des bofs, comme vous dites ici.
Oui.
Et on a fait une visite très intéressante aussi des salles de la mairie et de la place qu'on ne connaissait pas du tout.
J'aurais une question à propos des visites. C'est important pour vous d'avoir une personne physique, un guide qui vous explique ou un audio guide, ça, vous ne voyez pas la différence ou ça vous dérange ou...
Moi, je préfère nettement les visites avec quelqu'un. Ça, c'est évident parce qu'on peut avoir les explications complètes. Et puis, si on comprend pas, on peut demander. Alors que quand on visite comme ça, voilà.
On a pris 3 jours de congé, enfin, ou de congé ou de vacances dans le Nord. Et on s'est dit qu'on allait aller jusqu'à la côte d'Opale. Et sur notre chemin de retour, le nom d'Arras me disait quelque chose. Et je me suis dit, on va s'arrêter là. À cette ville. Et on est bien content, on a une belle petite visite ici. Je trouve l'endroit très, très agréable, avec une belle place. On va continuer notre visite, encore une heure ou deux, et puis on rentrera.
Comment vous avez entendu parler de la visite ?
L'Office du tourisme a proposé plusieurs visites, et dont celle-ci. Et comme on aime bien l'histoire et les places, et que, quand on est arrivé, c'était éblouissant cette place quand même. Ça valait la peine, oui. On a eu des bons renseignements.
On apprécie une visite guidée parce qu'on a toujours un peu des compléments d'informations. Donc voilà, on apprécie cette visite.
Je trouve que ça vaut la peine,
on
franchement, oui.
On avec beaucoup de plaisir, encore plein de choses à faire. Hein.
Une petite visite au musée.
Plus, donc c'est vraiment une ville à venir comme ça, oui. C'est ça. Non, franchement, c'est une belle découverte.
Et vous êtes de où en Belgique ?
Beaurain, à côté de Givet, hein, on est sur la frontière française. Voilà, 2h30, donc c'est pas si loin.
Ça va. Oui.
C'est super.
Si cette heure au cœur des places d'Arras est l'occasion d'en apprendre plus sur le patrimoine de notre cité, Sarah, notre guide, confiait au micro de PFM que ce ne sont pas ce genre de visites qui attirent les Arrageois et que les touristes viennent de bien plus loin. L'occasion de discuter avec elle du rayonnement de notre ville et de son attractivité touristique. Est-ce que vous sentez les Arrageois enthousiastes quant à ce type d'initiative touristique ou c'est plutôt des étrangers?
Alors concrètement, ne serait-ce qu'aujourd'hui, nous n'avions aucun Arrageois. Je pense que les Arrageois vont venir sur des choses bien ciblées. Quand on a des événements qui vont plus leur parler, des anniversaires, des inaugurations. Là, effectivement, la population arrageoise, elle est très très présente. Par contre, sur ce type de visite qu'on réserve vraiment l'été, donc vraiment plus pour les touristes, c'est vraiment des touristes qu'on va retrouver. Là, concrètement, j'ai posé la question en début de visite, il n'y avait pas une seule personne d'Arras, il n'y avait pas une seule personne de la région. Enfin, s'il y avait un couple de la région. Voilà, on a eu un couple de la région sur 23 personnes.
Vous pensez que, vous, en tant que guide conférencière, est-ce que vous avez l'impression qu'Arras est touristique? Enfin, c'est une ville attractive selon vous?
Oui, Arras, c'est une ville très attractive au niveau touristique. Il y a quand même énormément de choses à faire. Enfin, déjà, ne serait-ce qu'au niveau de la place des héros, sur un tout petit périmètre carré, on a plusieurs propositions. On a justement l'hôtel de ville. Vous avez la visite des Bauves, la montée au Beffroi. On fait quelques mètres un peu plus loin, on va jusqu'à l'abbaye Saint-Va, on a du coup le musée, la cathédrale, on a le théâtre, on a la maison Robespierre. Donc voilà, sur un tout petit périmètre, on a énormément de propositions touristiques. Alors après, effectivement, quand on agrandit le cercle, on va avoir beaucoup d'autres choses. Par exemple, c'est vrai qu'il y a aussi la carrière Wellington qui a ouvert plus récemment, de l'autre côté de la gare, qui est un petit peu plus loin, mais qui là va intéresser vraiment plus le tourisme de mémoire. Donc ça, encore une fois, c'est vraiment un tourisme bien spécifique. Mais c'est vrai que voilà, à Arras, il y a énormément de choses à faire. Puis après, il y a aussi les gens qui veulent juste voir des belles choses et donc qui ne veulent pas spécifiquement des visites guidées, qui ne veulent pas voilà, forcément le côté historique, mais qui vont se promener sur les places parce qu'ils vont les trouver jolies et qui vont aller par exemple se promener en ville et ils vont se retrouver finalement à faire le tour du quartier Victor Hugo par exemple, de la place Victor Hugo. Enfin voilà, il y a, je trouve, énormément de choses à faire, à voir. On a aussi une citadelle Vauban, donc voilà, je pense qu'à tous les niveaux, autant pour le côté historique, patrimoine, et pour le côté promenade, balade, on a de quoi satisfaire énormément de monde.
Et donc vous pensez qu'on met bien en valeur justement toute cette richesse au niveau du patrimoine et de la culture à Arras, on pourrait mieux faire peut-être? Est-ce que c'est mieux qu'avant, moins bien qu'avant?
Je ne suis guide conférencière que depuis 2008, donc je n'ai pas forcément une expérience de plusieurs dizaines d'années. Moi, ce que je peux en voir de mon œil, du coup, plutôt neuf, parce que ça ne fait même pas 10 ans, c'est que oui, il y a une mise en valeur du patrimoine arrageois qui est exceptionnelle. C'est-à-dire que moi, depuis que je suis arrivée, il y a eu quand même la création de la carrière Wellington. Il y a eu depuis aussi l'inscription au patrimoine mondial de la citadelle Vauban. Donc on est quand même aussi sur des sites assez emblématiques qui, dans tous les cas, ont été mis en valeur. Après, le reste, les places, la mise en valeur, c'est plus par un travail individuel, la bonne volonté de chacun, comme nettoyer sa façade, etc. Il y a quand même eu beaucoup de changements, parce que ça, le nettoyage des façades, le nettoyage de l'hôtel de ville, du beffroi, ça a été fait il y a quelques années, et on voit la différence. Quand on venait dans les années 90 et quand on vient depuis 2000, depuis le début des années 2000 et plus particulièrement 2004, on voit la différence. Il y a une mise en valeur du patrimoine qui est assez importante. Après, faire plus, on peut toujours faire plus. Ouais. Mais je trouve que c'est déjà pas mal.
Et au niveau des touristes qui viennent à Arras, justement, est-ce que en tant que guide, vous avez l'impression de voir des gens d'un peu partout ou c'est plus des pays qui sont près d'Arras ou des villes belges où ça attire vraiment des gens qui viennent d'assez loin?
Non, je pense qu'on a vraiment de tout. Donc là, effectivement, il y avait des Belges avec nous, mais il me semble aussi, en ayant entendu parler et en ayant discuté avec 2-3 personnes, qu'on avait aussi des gens du sud de la France. De plus en plus, d'ailleurs, en tout cas, moi, j'ai aperçu des touristes bordelais tout à l'heure, parce que je les ai reconnus, je les avais eus quelques jours auparavant, enfin voilà. De plus en plus, même les gens du sud, qui d'ailleurs bien souvent nous le disent, quand ils viennent chez nous, on nous a regardés comme des fous quand on a dit qu'on partait dans le nord, viennent chez nous. Alors d'ailleurs, souvent d'ailleurs, ils me disent on est venu prendre le frais chez vous. Donc en ce moment, ils sont contents parce que le frais, on le cherche tous. Mais non, ils viennent de partout. Et alors effectivement, bien souvent, on va retrouver plutôt de ce que j'appelle les régionaux. C'est-à-dire que voilà, on va retrouver les Flamands, les Belges et puis toute la région qui va venir sur ce type de visite. Mais de plus en plus, on a aussi des touristes qui viennent parfois de loin et qui sont en vacances et qui profitent de leurs vacances pour découvrir.
Deux autres personnages. Donc vous avez un homme qui est vêtu comme un moine sur le bord gauche, du coup. Cet homme est là pour rappeler justement l'importance et l'influence de l'abbaye Saint-Va. Alors l'abbaye Saint-Va, pour vous situer, c'est ce que vous connaissez peut-être comme étant et la cathédrale et le musée d'Arras. Ça forme vraiment l'ensemble abbatial, un ensemble qui va grandement évoluer au XVIIIe siècle, mais qui existait déjà bien avant, et surtout qui devient très rapidement l'un des plus... Enfin, l'ensemble, cette abbaye devient l'une des plus riches de France. On est sur une abbaye royale. Et donc on dit souvent que si la ville commerciale d'Arras a pu se développer, c'est grâce à l'affluence de l'abbaye Saint-Va. Nous, ici, on se trouve dans la partie commerciale de la ville. Je vous expliquerai un peu plus cette différence tout à l'heure. Mais on est sur la partie de la ville qui va vraiment se développer un peu tardivement. On se développe, nous, ici, plutôt au XIIe siècle. À partir du moment où on décide de créer les places de marché. C'est autour des places de marché que va se créer la ville d'Arras, que du coup, vous connaissez beaucoup plus, la partie commerçante, en parallèle de la cité. Pour ceux qui connaissent peut-être la cité, si ça ne vous parle pas tout de suite, c'est le quartier de la préfecture.
Guide conférencière, un métier qu'il n'est pourtant pas facile d'exercer, comme nous l'explique Sarah, notre guide à qui nous avons demandé des détails sur son statut et sur celui de ses collègues.
Avoir du travail quand on est guide conférencier, c'est un vaste débat. En soi, c'est pas compliqué de travailler en tant que guide conférencier, puisque on est quand même sur, en tout cas dans le Nord-Pas-de-Calais, on a énormément de villes très proches les unes des autres qui travaillent avec des guides conférenciers, bien souvent parce qu'elles sont labellisées. Par exemple, Arras n'est pas labellisée, mais travaille avec des guides conférenciers. Régionalement, vous avez beaucoup d'offices et de demandes, en tout cas pour travailler. Le seul souci, c'est qu'il ne faut pas penser faire ce métier, devenir guide conférencier, pour gagner sa vie. Ça permet pas de gagner sa vie. On ne sera jamais sur du temps plein, ou alors dans de très très rares cas, mais un guide conférencier aujourd'hui dans le Nord-Pas-de-Calais ne peut pas gagner, en tout cas, donc, voilà, ça arrive trop rarement. Donc c'est vraiment quelque chose à faire par passion, quelque chose à faire en complément. Donc d'ailleurs, à la limite, quand on a un boulot qui nous plaît pas trop, que c'est notre passion, faut en profiter parce que du coup on se fait plaisir à ce moment-là. Pour moi, c'est vraiment du complément. J'ai pu gagner ma vie à une époque, mais je n'ai fait que ça pendant 2 ans. Pas de vacances, pas d'arrêt maladie, rien. Ça demande beaucoup de choses et pas de vie privée du coup.
Donc vous êtes obligée d'avoir un deuxième métier en même temps pour gagner votre vie.
Ouais, généralement, en tout cas, moi, la majorité des guides conférenciers que je connaisse sont à la retraite. Donc ils font ça par passion. Ils font ça parce que c'est la retraite n'est pas forcément toujours facile à vivre. Ça les occupe. Soit parce qu'effectivement, ils ont un autre métier, mais ça permet quand même de pratiquer une passion. Donc ils ont un emploi, que ce soit à mi-temps ou à temps plein, mais ils profitent de leur temps libre pour pratiquer leur métier de guide conférencier. Généralement, ça va être ce type de cas.
Et vous pensez que c'est l'époque qui veut ça ou c'est la région où vous êtes ou c'est difficile, ça a toujours été difficile comment vous l'expliqueriez
Je pense que dans tous les cas, concrètement, c'est difficile. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le métier de guidage est de plus en plus compliqué parce qu'on a aussi une grande concurrence vis-à-vis d'autres personne qui s'intitule guide sans avoir forcément passé d'examen. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi assez compliqué parce que le touriste, lui, il peut pas forcément s'y retrouver. Le fait est que la région Nord-Pas-de-Calais n'est pas non plus forcément une région hyper touristique. Donc déjà, il faut penser au mois d'hiver. Les mois d'hiver, ils sont compliqués hein, pour un guide conférencier dans la région. Je pense que ça l'est beaucoup moins plus on descend. Plus on va au sud, l'été, en tout cas la période, en tout cas les extérieurs étant plus appréciables, plus agréables, plus longtemps, c'est plus gérable. Alors que chez nous, c'est vrai qu'en hiver, il y a une baisse de fréquentation qui est assez importante. Donc ça, automatiquement, quand il n'y a plus de visiteurs, il n'y a plus de visites.
Ben, oui.
Voilà. Même si dans tous les cas, à Arras, on reste quand même sur une ville où, bah, étonnamment, il y a des visiteurs tout au long de l'année. Mais c'est aussi parce qu'il y a la particularité d'avoir des sites intérieurs. Les Boves, la Caria Wellington sont des sites qui fonctionnent toute l'année. Parce qu'effectivement, dans tous les cas, il fait 12 degrés en dessous de janvier à décembre.
Et je voulais rebondir sur ce que vous disiez sur le fait qu'il y a des guides conférenciers qui n'en sont pas vraiment. Est-ce que vous diriez qu'il y a une ubérisation des guides conférenciers, des gens qui sont un peu indépendants et qui en fait n'ont pas vraiment les diplômes?
Oui, enfin, je ne sais pas si on peut parler d'ubérisation, parce que je me dis, si encore on pouvait tous gagner notre vie, enfin voilà, on n'est pas sur un métier qui permet de mener grand train. Donc voilà, après, je pense que ce qui peut être très dangereux, je ne dis pas qu'un guide conférencier automatiquement est un très bon guide, qu'il faut être carté pour être un excellent guide. La carte ne garantit pas, à la base, la carte doit garantir, dans le cadre d'un niveau d'études, que ce soit au niveau historique et patrimonial, donc de certaines connaissances. Après, vous allez avoir des historiens qui vont être aussi excellents, voire meilleurs que moi. Le seul souci, c'est qu'être guide, il faut combiner plusieurs choses. Il faut être très bon en histoire, il faut connaître le patrimoine, il faut connaître aussi les réglementations autour du patrimoine, mais il faut aussi connaître un minimum en médiation, pouvoir capter un public, pouvoir parler face à des gens, ça c'est pas donné à tout le monde non plus. Il faut pouvoir aussi trouver la petite chose qui va intéresser celui qui, pendant toute la visite, vous regarde pas, vous parle pas, parce qu'en fait, vous, au début, voilà, c'est aussi comprendre les gens. On va identifier son public, on va voir tout de suite, en fonction des réactions des gens, qui va s'intéresser plutôt à quoi, et ça va permettre aussi d'orienter sa visite. Voilà, concrètement, on ne fait pas la même visite quand on a une classe de 3e que quand on a un groupe comme aujourd'hui de touristes. Moi, j'estime que quand on est en vacances, déjà, on est plus léger. Donc voilà, moi, en vacances, généralement, j'hésite pas, je fais des blagues. Je n'ai pas encore été jusqu'à inviter des touristes en terrasse, mais c'est des choses qui peuvent se faire en vacances. Chose que je ne ferai pas toute l'année, par exemple. Voilà, mais voilà, je pense qu'il y a ça aussi. Et quand on fait, quand on est carté, quand on a une carte de guide, on a été validé. Aussi bien à l'écrit, c'est-à-dire qu'on a un examen écrit qui nous sanctionne au niveau de nos connaissances, et on a aussi une validation orale. Une validation orale qui est aussi bien basée sur nos connaissances que sur nos capacités à guider un groupe. Et ça va, c'est assez large, ça va de la prise en charge du groupe et la façon de parler aux gens. Quand vous croisez un guide dans la rue qui continue de parler sans micro et qui marche devant lui et tout son groupe est derrière, cherchez pas à suivre une de ses visites. Il n'y a rien contre personne, mais c'est juste que voilà, il y a un examen qui, en tout cas, voilà, jusqu'au moment où on a passé l'examen, on avait toutes les compétences pour faire ce travail. Je trouve décevant qu'il y ait des guides qui s'improvisent guides, c'est pas non plus surhumain cet examen. Donc justement, autant aller au bout des choses plutôt que de se dire moi je connais l'histoire, moi je sais parler aux gens, donc du coup je suis guide. Oui, moi je fais de la pâtisserie, je fais à manger pour ma famille, je suis pas cuisinière non plus quoi.
Est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous comme celui-ci à retrouver sur Arras, d'autres visites du patrimoine?
Oui, il y en a plein. Donc les salles et la visite des salles qu'on a faites, vous l'avez tous les jours. Sauf le samedi. On a donc la visite des places, puisque aujourd'hui c'était salle place. Donc c'est les vendredis et lundis à 15h. Vous avez aussi l'hôtel de ville de Fontencomble, très sympa comme visite à faire. C'est le jeudi à 18h15. Ça se termine par une dégustation dans les Boves, bière et fromage. Donc ça, franchement, il faut la faire. Faut la faire, elle est très très bien. Et puis après, on va voir aussi le site Nemetacum, le site gallo-romain. C'est le dimanche après-midi, 15h et 16h. Vous avez aussi la promenade arageoise qui va être le jeudi à 15h. Donc là, c'est vraiment par contre toute la ville. On fait aussi bien les places que le centre-ville, donc on va un peu plus loin que ce qu'on a fait. Du coup, on va vraiment passer devant le théâtre, la maison Robespierre, l'abbaye Saint-Va. Donc c'est un peu plus complet. Et vous avez aussi la visite de la citadelle le mardi à 15h. Alors surtout, ne pas oublier, c'est la petite pause insolite à faire à l'hôtel de Guines. Un hôtel particulier qui datait du XVIIIe siècle, ces fameux hôtels entre cour et jardin, et dont justement l'un des salons accueille pas forcément tout le mobilier d'époque, mais en tout cas voilà, on essaye de vous faire revivre à cette époque du XVIIIe siècle. Donc vous avez une table qui est installée, vous avez des créations aussi de Sylvie Facon. Donc c'est assez sympa, ça vous permet de vous replonger dans ce beau XVIIIe siècle, au cœur de ce quartier typiquement XVIIIe justement, juste à côté du théâtre, de l'abbaye Saint-Va et de la maison Robespierre. Juste à côté de la préfecture, occupe juste le transept de la cathédrale. Cathédrale qui n'a pas été détruite par la Première Guerre mondiale, mais par la Révolution française. Donc déjà avant la guerre, elle n'existait plus. Et donc voilà, on a une procession religieuse au niveau de ce quartier de la cité. Et puis, on va se décaler et on va voir ce qu'il y a sur le mur latéral. Et là, par contre, vous voyez qu'on arrive plutôt en ville. On est sur une scène de marché. Donc je vous expliquais tout à l'heure que si la ville commerçante va se développer, c'est parce qu'elle va se développer autour des places, notamment ces places qui, elles, ont été créées pour accueillir les marchés. Donc voilà justement un exemple qui est assez particulier, c'est que concrètement, tout laisse à penser que nous sommes sur ce qu'on va appeler le marché quotidien, le marché qui avait lieu essentiellement sur la petite place. Mais quand on y regarde d'un peu plus près, on a du mal à reconnaître notre petite place. Enfin, notre petite place, on la retrouve plutôt là-bas au fond. Mais donc là, on a l'impression que les commerçants se sont déplacés. Alors, est-ce plutôt pour la représentation, ou est-ce que Hofbauer, en se renseignant, avait essayé de prendre quelques éléments, mais il n'a pas forcément tout respecté. Ça, nous n'avons pas forcément l'explication. Mais en tout cas, on peut sensiblement penser que là-bas, c'est la petite place, bien que on a une architecture qui nous fait plutôt penser aux Trois Lupards, au fond. Je ne sais pas si vous connaissez l'hôtel des Trois Lupards, qui se trouve sur la Grand Place, tout au bout. Donc l'architecture qui, au fond, avec ses deux pignons, justement, c'est ce qu'on connaissait de l'architecture des Trois Lupards avant la reconstruction. Du coup, c'est cette partie où on sait que Charles Hofbauer ne connaît pas Arras, donc on l'excuse pour son manque de précision. Alors on va poursuivre, on va avancer, puis vous voyez que en avançant tout en haut, on va aussi quitter la ville. Vous avez l'une des portes de la ville, et là on quitte la ville d'Arras pour se rendre à la campagne, et notamment aussi pour se rendre dans une fête villageoise.
Au cœur des places d'Arras. Une visite que vous pourrez retrouver les lundis et vendredis. Ça se passe à l'Office du tourisme d'Arras. C'est à 15h.